Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 1er mars, 20h. C'est Billy Beau Rencontre et pour cette huitième rencontre, j'ai mon ami Yannick Pagé. Salut Yannick.
Hey, salut Jean-Luc,
Ça va
bonjour tout
bien?
le monde, ben, ça va bien certain, content d'être avec toi et avec nos auditeurs ce soir.
Ben, c'est très gentil d'avoir accepté l'invitation. Puis on est actuellement en direct sur ma page Facebook. On est aussi sur la page Facebook de Billy Vaux. On est sur ma page auteur. On est sur les mordus de livres. On est sur LinkedIn. On est sur YouTube. Donc, sur 8 plateformes en même temps. Et dès demain, vous allez pouvoir retrouver notre discussion et vos questions et tout ça sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Hayat Radio qui fait partie de Rouge FM et de Énergie. On a Spotify, Amazon Music et Balado Québec. Donc, vous allez pouvoir, puis vous continuez beaucoup à nous écouter parce qu'on reçoit beaucoup de messages, même par après. Puis merci de votre fidélité. On aime beaucoup, beaucoup ça. C'est un privilège de vous parler tous les mercredis à la rencontre des auteurs de Billy Book. Yannick, avant de passer à toi, juste pour les personnes qui nous écoutent, dans les commentaires en bas, vous avez juste à poser vos questions à Yannick durant la discussion. Moi, je suis un peu le serveur cette soirée. Donc, je vais faire l'intermédiaire de vos questions. Je vais les poser à Yannick, qui va vous répondre avec le plus grand plaisir. Puis,
Certains, oui.
lâchez-vous, posez vos questions. C'est quelqu'un qui a aucune censure, donc allez-y.
On est là pour se gâter.
C'est ça, en plein ça. Puis, Yannick, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter qui tu es, ton entreprise, l'accompagnement
Ben
que tu
oui, tout
fais
à
en
fait.
quelques mots?
Oui, ben oui, certains. Ben, merci de l'invitation. Je suis content d'être là ce soir avec toi, puis avec nos auditeurs, puis les gens qui suivent Béliveau, les gens qui nous découvrent. Donc, moi, ben, Yannick Pagé, je suis auteur, je suis conférencier. J'ai écrit Cessez de subir votre vie et apprenez à la gérer. Donc, c'est mon deuxième livre que j'ai écrit, que j'ai publié chez Béliveau. J'ai une entreprise que je donne du coaching, conférences puis des ateliers en entreprise, mais aussi avec des particuliers. Je me développe dans la croissance personnelle, donc dans l'accompagnement personnel, l'accompagnement individuel. Je fais aussi des ateliers pour des entreprises, donc de la consolidation d'équipe, de la motivation, de la visualisation. Et j'ai aussi la chance puis le grand bonheur de travailler chez Béliveau depuis plusieurs années comme évaluateur. Évaluateur, c'est la personne qui fait, dans le fond, la première réception des manuscrits. Donc, les gens qui soumettent un manuscrit, qui prennent le temps d'écrire un manuscrit, qui l'envoient à différentes maisons d'édition. Chez Béliveau, je fais partie du comité qui reçoit ces manuscrits-là, qui fait une première analyse, puis qui voit le potentiel d'un ouvrage. Puis là, s'il y a un intérêt, ben on le soumet au comité de lecture. Puis là, ben ça peut donner des belles surprises. On tombe sur des belles pépites. Donc, j'ai la chance de faire ça depuis plusieurs années. C'est un privilège de découvrir l'intimité des auteurs. Hein. Quand on écrit pour les autres. Hein. On écrit pour faire plaisir aux gens. On écrit pour faire découvrir notre passion, faire découvrir un imaginaire aux gens. Puis c'est un grand acte de générosité. Puis c'est un grand privilège de pouvoir lire ça. Les premiers jets, là, ce manuscrit, effectivement, c'est souvent un premier jet. Avant qu'il se retrouve sur des tablettes, il y a différentes étapes qui sont à prendre en considération. Puis j'ai la chance de faire ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, puis de m'impliquer pour la belle famille de Béliveau aussi. C'est une belle famille, c'est tous des auteurs impliqués, c'est tout du monde de cœur, t'en fais partie, donc c'est bien plaisant.
Ouais, puis justement, si je dois en quelque sorte mon arrivée chez Billy Bo, c'est aussi grâce à toi. T'as eu des très bons mots, puis pour que les connexions se fassent et tout ça. Donc, merci beaucoup Yannick, c'est très très gentil à toi.
Ben, c'est moi qui te remercie. Moi, j'ai toujours dit que en arrière de Jean-Luc, l'auteur, il y a un gars vrai, un gars authentique, un gars de cœur qui est impliqué dans sa communauté. qui est là pour aider le monde. Fait que c'est un fit parfait avec nous autres chez Béliveau.
Oui, puis d'ailleurs, Lolita Leblanc nous dit déjà, dis donc, c'est la personne à charmer avec notre plume.
Oui, c'est sûr. Oui, quand j'ai un coup de cœur, c'est clair que ça rend le travail encore plus plaisant là, quand on fait une belle découverte. Mais en même temps, on le fait toujours dans un esprit constructif. Hein? Les gens, je sais par expérience qu'il y a des maisons d'édition où les gens vont dire ben vous êtes tout simplement refusé. Ou il y a même des maisons d'édition qui ne donnent même pas de feedback, hein, qui font aucun suivi, parce que oui, il y a un gros volume de manuscrits qui sont soumis à une maison d'édition, mais moi, je me fais toujours un souci de travailler de façon professionnelle avec une grille d'analyse, puis je soulève les points qui sont à améliorer. Puis c'est transmis à l'auteur. Donc, c'est pas parce qu'on est refusé dans une maison d'édition que c'est une fin en soi. Hein. C'est juste une façon de revoir les choses différemment, de retravailler son œuvre, puis de représenter ça. Puis si on persiste, puis on signe, peut juste donner les beaux résultats.
Et ce soir, on parle cessez de subir votre vie et apprenez à la gérer.
Oui.
Et comme tu vois, il y a des post-it.
Oui, c'est bon. Alors,
il va y avoir des questions, puis on va commencer avec ton introduction.
Oui.
Qui m'a beaucoup fait rire.
Oui.
Parce que tu dis, si un chou-fleur peut devenir une pâte à pizza, tu peux devenir ce que tu veux.
Oui. Oui, ça initialement, c'était le titre que je voulais donner à mon livre. Évidemment, dans toute la dynamique d'édition, les discussions qu'on a avec la production, tout ça, un titre, c'est toujours provisoire. Mais un moment donné, moi, je suis un gars qui... Je suis un éternel motivé. Je vois toujours l'opportunité dans toutes les épreuves, dans tout ce qui se présente. Je vois beaucoup plus souvent le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Puis quand le verre, il est vide, il peut devenir un pot à fleurs. Tu sais, il y a toujours une opportunité que tu peux faire. Puis là, j'avais vu une nouvelle qui parlait des grands, je ne veux pas nommer de compagnie, mais il y a des grands, grands joueurs dans le domaine de la pizza industrielle qui se sont mis à dire, bon, ben, il y a des gens qui ont des allergies au gluten, tout ça. Ben, on va faire des croûtes à pizza, mais faites à base de légumes. Puis là, j'avais écouté le topo en anglais là-dessus, puis c'était fait par la CBC. C'était un gros topo. Puis là, je disais, hey, wow! Quand c'est rendu qu'un chou-fleur peut devenir une pâte à pizza, ça fait juste confirmer ce que je dis tout le temps à tout le monde dans mes conférences. Tu peux devenir ce que tu veux.
Exact.
Tu sais, chou-fleur à la base, c'est un légume, il est plate, il est moche, il est drabe. C'est un des mal-aimés là, avec le chou là, dans les légumes. Tu te dis, wow, on peut faire une pâte à pizza avec ça. Hey, si un légume peut devenir ce qu'il veut, moi, je peux devenir ce que je veux n'importe quand. Ça a été un déclic, puis ça a été l'ouverture de ma réflexion pour justement faire ce livre-là.
Ouais, puis tu dis dans ton introduction, puis je disais que tu étais ouvert d'esprit, tout ça, puis j'ai oublié de dire, tu es authentique. Et tu le dis justement dans « Je suis un bon vivant, j'aime les choses vraies presque, puisque je suis authentique ». Et un peu plus loin, tu écris même « J'ai la conviction profonde que tout un chacun y a droit et mérite de prendre une part du festin de la vie, mais encore faut-il faire le choix conscient et engagé d'y participer et surtout d'y croire. »
Tout à fait. C'est moi, je dis toujours que le plus gros pas vers le changement, c'est la prise de conscience qu'on peut avoir justement de se dire... je cite beaucoup dans mon livre et dans mes conférences, je parle beaucoup de Jim Rohn. C'est un mentor américain qui faisait de la motivation au grand public. Puis lui, il a tellement été ouvert sur ce principe-là de se dire, tu sais, les gens là, qui quittent là, des pays sous-développés, des pays où il y a la guerre, ils ne se sauvent pas pour s'en aller dans un autre pays où il y a de la misère. Ils viennent dans des pays où il y a des terres d'opportunité, où il y a des moyens qui sont illimités. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais là, Yannick, tu es dans un monde de licornes. C'est pas vrai qu'il y a des moyens illimités partout. » On a accès à une richesse. On a accès à un tissu social. On a accès à des institutions publiques. On a accès à des bibliothèques. On a accès à plein de ressources. Fait que du moment que tu fais une prise de conscience puis tu te dis « Hey, wow, j'ai les mêmes chances que tout le monde. » Parce qu'on a tous une histoire, on a tous un background, on a tous un vécu. Moi, je viens d'un milieu défavorisé, extrêmement défavorisé. Je viens d'un milieu où j'ai une famille élargie qui est dysfonctionnelle. L'éducation, c'était pas encouragé, c'était pas mis en avant. Puis j'ai toujours eu cet appétit-là, cette avidité-là de me dire, waouh, moi aussi, je peux manger à pleine bouche, à pleine main, dans ce buffet à volonté-là que tout le monde peut avoir. Fait que c'est essentiellement une question de volonté, puis de prise de décision, puis d'action. Quand tu comprends ça, là, en anglais, là, on dit sky is the limit, là, il y a juste toi qui peux se mettre des bâtons dans les roues. Les gens ils disent, ah, je suis victime de ci, ah, j'étais pauvre, ah, je viens d'un milieu défavorisé, ah, je viens d'un milieu qui a connu de la violence, je peux pas donner de l'amour, mon père m'en a pas donné. Mon père, c'est un alcoolique qui nous a donné la strap quand j'étais petit garçon, puis tout ça. Mes garçons, je les aime, je leur dis que je les aime, je leur donne de l'amour, je leur donne de la tendresse. Il y a toi comme individu, à un moment donné, tu peux faire le déclic, puis tu dis, OK, c'est là que ça se passe, le pouvoir, c'est moi qui l'ai, je change la donne, puis je mords dans le buffet que tout le monde a accès.
Ouais,
C'est
puis
une question.
des fois, ça fait du bien de vivre dans un monde de licorne.
Oui,
Hein?
oui,
Il faut
oui.
l'assumer. Faut l'assumer à un moment donné.
Oui, mais c'est ça, on est bombardé. Dans mon livre, j'en parle beaucoup. Tu sais, ça t'appartient à toi si tu veux t'asseoir toutes les soirs puis regarder des téléromans, si tu veux regarder du Netflix. Je suis quelqu'un qui aime ça, procrastiner, moi aussi, là, Yannick Pagé, là, j'aime savoir mes moments de faiblesse, où est-ce que je me pogne le beigne en bon québécois, puis où est-ce que je relaxe, puis je fais le farianté, tu sais, je fais rien, là. C'est correct, mais si tu fais ça à longueur de semaine, à longueur de vie, il ne faut pas que tu te surprennes si tu n'avances pas. Fait que
C'est
moi,
ça.
j'aime ça. Penser que je suis dans un monde de licorne, dans un monde où ce que j'ai accès à plein d'informations, plein de potentiel, puis on est bombardé de négatifs à la télévision, aux nouvelles. Fait qu'on peut-tu, entre nous autres, là, ce soir, là, se dire, hey, on vit dans un bon monde, on vit dans un beau monde, on vit dans un monde de licorne. Parfait. Moi, j'achète ça.
Il y a Lolita Leblanc qui monte. Votre créneau littéraire demande de la structure, un plan et de la discipline, mais pendant le processus, vous arrive-t-il quand même de vous étonner en partant dans une direction non prévue?
Ah ben oui, plein de fois. Hey, plein de fois. Oh oui, j'ai un peu la même technique que toi, Jean-Luc. Tu sais, je fonctionne avec des post-it, je me fais un plan, tout ça, mais ça aussi, c'est une beauté de la vie que j'ai appris en fait. Oui, que j'ai appris en faisant Compostelle. Tu sais, tu as beau te faire un plan de match, tu as beau te fixer des objectifs, tu as beau te faire un cadre dans le développement personnel comme ça, oui, il faut être très structuré. Mais aussi, il faut être capable de s'émerveiller puis laisser place à l'imprévu. Puis c'est de là que souvent va naître l'inspiration. Même mon livre que j'ai écrit, là, j'étais hyper structuré, hyper ordonné, puis à un moment donné, boum, tu sais, t'as un flash, t'as une rencontre, puis là, tu dis, il faut que je parle de ça. Mais ça, c'est la beauté de la vie, là. Je dis ça dans mon livre. On n'est pas des roches, là. Toi, puis moi, Jean-Luc, on n'est pas des roches, là. Fait qu'on peut bouger, on peut évoluer, on peut reculer, Puis dans mon livre, je parle des paroles limitantes. T'sais. C'est sûr que si tu commences à te taper sur la tête
On va
toi-même,
en
c'est
parler
pas
tantôt.
bon. Ouais, bon. Fait que, mais c'est ça. Et oui, c'est parfait aussi de sortir d'une direction qui est complètement imprévue parce que ça va amener une autre perspective, un autre échange, une autre vision différente. Puis là, tu ouvres tes horizons. T'sais, moi, dans la vie, la seule affaire que je veux pas, c'est avoir des œillères puis voir juste en avant de moi. Tu sais, la vie, c'est un buffet, là. Moi, je veux avoir tout le. Je suis un gourmand de nature, je m'assume, je suis des rondeurs, je suis un bon vivant, j'aime la vie. Ben, les êtres humains, c'est un buffet. Fait que moi, je veux rencontrer le plus de gens possible, je veux m'ouvrir le plus possible, je veux faire des découvertes, des rencontres.
Mais d'ailleurs, tu le dis dans ton livre qu'il y a trois restrictions qu'on s'impose à soi-même et qui nous empêchent d'avancer, la procrastination, le blâme et l'excuse.
Oui, définitif. La procrastination, je sais, j'ai de l'air d'un gars qui réussit. Ben, je réussis, là. J'ai de la réussite, j'ai de la facilité, mais je suis le plus grand procrastinateur que la Terre ait sans doute pas porté puis mis au monde. Faut que je me botte les fesses, faut que je me fasse un checklist, faut que je me kick, me kick, me kick, me kick, me kick. Fait que dans vie, ce qui nous retient, les trois choses qui nous retiennent le plus, nous empêchent d'avancer, c'est clairement la procrastination. C'est je remets à demain, je remets à demain, je remets à demain. C'est tellement facile de remettre à demain puis de rien faire aujourd'hui. Le blâme, ça, c'est encore plus facile. Je dis tout le temps aux gens que je coach, tu sais, je dis, quand les gens, tu sais, commencent à parler négativement puis à dire, ah, oh, mais là, tu sais, je suis pas bon, je suis pas, là, je dis, attendez, mais c'est là que je sors la poêle en fonte, là. Mais vous la donnez, continuez à vous taper sur la tête, tu sais. Fait que se blâmer, ça aide à rien. Ça fait juste rabaisser qui on est. Ça fait juste rabaisser nos espérances. Ça fait juste rabaisser notre motivation. Ça fait juste rabaisser nos aptitudes. Puis, c'est ça. Procrastination, le blâme.
Et l'excuse. Puis,
pardon?
L'excuse.
L'excuse, bien, c'est clair. Dans la vie, encore là, je ne crois pas que la vie fait de nous des victimes. C'est comment nous qu'on se voit, on se perçoit comme une victime. Ben, les bâtons d'un roux, là, je comprends que des fois, la vie va nous faire une jambette, là, une entourloupette, puis qu'on va perdre pied. Mais souvent, là, par expérience, puis en coaching, puis en accompagnement, c'est nous autres qui se met nos propres bâtons dans les roues. C'est nous autres qui se créent des excuses. C'est nous autres qui écoutent nos petites peurs, qui nous font prendre une petite hésitation. Puis là, oups, le doute s'installe. Fait que c'est super, super, super vicieux, ces trois choses-là. C'est comme si c'était les mères de toutes les vices, là. Quand tu comprends que tu tasses la procrastination, tu tasses le blâme, puis tu tasses l'excuse, c'est drôle, tu te mets à avancer.
Puis justement, il faut avancer puis avoir une attitude positive parce que tu dis ça change une vie. Puis dans ton livre,
oui. Oui.
Qui est disponible sur beliveauéditeur.com.
Oui.
C'est Mathieu, j'ai fait la publicité. Tu dis en adoptant cette attitude, nous devenons plus réceptifs. Nous finissons par choisir de voir le bon côté des choses, notre esprit s'ouvre aux signes qui sont tout autour de nous. En cultivant cet état d'esprit et cette vision, nous finissons par anticiper le bon, le bien et le succès.
Tout à fait. L'attitude positive, c'est la vision positive, c'est la clé de tout. Tu sais, j'ai un verre d'eau avec moi, là. J'ai un verre d'eau, un verre transparent, de l'eau, c'est transparent. Bien, quelqu'un qui a une vision positive, c'est il voit la vie à travers ce prisme-là. Donc, je regarde à travers un verre de cristal avec une eau qui est limpide. Tout ce que je vais voir va être clairement clair, limpide et positif. Mais tantôt, je disais, si exemple, on regarde des trucs négatifs, si je regarde des nouvelles, si je regarde des téléséries tout le temps, si je me tiens avec des gens négatifs, ce que je fais, c'est que je prends mon cerveau, mon état d'esprit, qui est le contenant. L'eau, c'est le contenu, c'est ma motivation, c'est ma vision positive. Là, je le contamine tranquillement, pas vite. Le verre va devenir complètement noir. Tu sais, exemple, si je prendrais cette eau-là puis je mets dedans du Coca-Cola, un moment donné, je vais voir juste du noir. Fait que si je me mets à regarder ma vie à travers ce prisme-là, qui est un prisme négatif, bien, il ne faut pas se surprendre que tout ce que je vais voir autour de moi va être à la base négatif ou va être menaçant ou va me permettre de ne pas avancer et va me faire régresser. Mais le moindrement que tu changes ça, c'est possible un coup que ta vision est complètement négative puis que le verre est complètement opaque, tu as juste à reprendre l'équivalent de l'eau claire qui est des relations positives, qui est du contenu positif, des livres de croissance personnelle, des trucs qui te font vibrer, de te tenir avec des gens qui te font vibrer, des gens qui t'élèvent, des gens qui t'allument plutôt qu'ils t'éteignent, bien, à un moment donné, la vision va redevenir positive et claire. Fait que c'est la base de toute chose. Si le moindrement tu as une vision positive, même des tuiles qui vont te tomber sur la tête, là, en anglais, on dit shit happen. T'sais, tu ne peux pas empêcher la merde de tomber dessus, les bad luck, les mauvaises expériences de vie. Tu ne peux pas les empêcher. Ça fait partie de la vie. Sauf que toi, tu peux changer la façon que tu as de les recevoir et de les aborder.
Et justement, notre amie commune, Annabelle Boyer.
Oui.
Elle a résumé et je suis jaloux de sa phrase. Annabelle, oui. Si tu peux me sortir une phrase de même, je la prends pour un de mes romans. Parce qu'elle a résumé ta vision de la vie et ta motivation. Et attention, c'est du grand Annabelle Boyer, non? C'est Yannick a vécu des années de Marthe, mais les plus belles fleurs naissent et poussent dans le fumier. Je suis jaloux de cette phrase.
Oui, Annabelle, c'est une amie d'enfance. On a grandi ensemble dans Haute-Laurentine. On a fait nos études ensemble au secondaire. On a toujours été présents un pour l'autre dans nos vies mutuelles. On a traversé toutes les deux des épreuves. J'en ai vécu beaucoup. Ça, je disais tantôt, tu sais, j'ai une enfance qui n'a pas été facile. J'ai eu une vie d'adulte qui n'a pas été facile non plus. J'aurais eu toutes les raisons de mal tourner, mal virer, mais encore là, c'est une résilience, c'est un trait de caractère, c'est une façon de vouloir la vie, voir la vie. La plus belle des fleurs pousse dans le plus beau des tas de fumier au monde. Fait que, ça m'a rendu plus fort. Je pense que ça. J'aime pas dire fort parce que je pense que tout le monde a cette force-là, mais je suis clairement convaincu que ça m'a apporté une richesse personnelle qui fait que j'ai une force de caractère, une force d'avancer. Puis aussi, j'ai cette capacité-là, justement, tu sais, dans mon coaching, dans mes accompagnements, de dire aux gens, dans la vie, là, il n'y a rien qui est immuable. Dans la vie, tout bouge. Ça fait cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Après la pluie, le beau temps, le yin, le yang, le noir, le blanc, le haut, le bas, le froid, le chaud, l'été, l'hiver, chaque situation négative, chaque élément plus négatif va toujours trouver son alter ego positif. Donc, dans une vie de marde, peut naître les plus belles expériences, les plus belles rencontres, puis le plus grand potentiel qu'on peut pas avoir.
Il y a Lolita Leblanc qui demande, selon vous, hormis votre côté positif, quelle est votre plus grande force et à l'inverse, une faiblesse à surveiller?
C'est une belle question. C'est une bonne question. Je dirais que ma plus grande force, c'est définitivement mon empathie, la
Oui.
capacité que j'ai à comprendre ce que les autres personnes vivent. En même temps, c'est aussi ma faiblesse. Je me laisse toucher facilement par le vécu, par les expériences des gens. Donc, ça me demande parfois de me protéger un petit peu plus parce que oui, tu sais, je suis profondément humain, j'aime le contact humain, j'aime les humains, mais il faut se protéger aussi, il faut avoir des techniques pour justement mettre j'appelle ça un buffer, là, un pad entre ce que la personne vit, mais je pense que c'est ma plus grande force, mais en même temps, ça peut être ma plus grande faiblesse. Ça m'a servi plus souvent que ça m'a nui, mais effectivement, le fait d'avoir cette grande empathie-là m'amène une vulnérabilité. Donc, je peux me faire blesser peut-être plus facilement qu'un autre, étant un gars vrai, un gars authentique. Quand on se met à nu, je me mets à nu souvent. Faut s'attendre à recevoir des coups. Mais encore là, je suis comme je suis. Je suis quelqu'un de vrai, d'authentique. Je ne changerai pas à 48 ans, là.
Tout à l'heure, tu parlais de Compostelle, puis il y a beaucoup de questions qui demandent est-ce que tu pourras en parler un peu? Parce que c'est tout un voyage pour se ressourcer.
Oui.
Puis il y a beaucoup de personnes qui sont impressionnées par Compostelle. Donc, est-ce que tu peux un peu
Ben
raconter ton
oui.
voyage dans le but, c'est pour
Oui, moi j'ai fait Compostelle à mes 30 ans. Je sortais d'une relation qui était vraiment négative avec une manipulatrice, une perverse narcissique qui a fait le ménage autour de moi dans ma vie. Si bien qu'à 30 ans, j'avais perdu tous mes repères. Puis d'une façon bien naïve, je me suis dit, bah, je vais aller trouver des réponses. Ma mère, elle faisait de l'animation pastorale quand j'étais petit à l'école, tout ça. Fait que j'ai été élevé dans un milieu catholique pratiquant. J'ai toujours entendu parler du chemin de Compostelle par des amis prêtres que ma mère avait, tout ça. Puis moi, j'ai vraiment eu l'envie d'aller sur ce chemin-là, pas dans une dimension religieuse, là, catholique, là. Vraiment, c'était dans une dimension de dire, OK, j'ai une job de fou. Je me cherche, je sors d'une relation qui était difficile, je veux des réponses, mais je voulais surtout prendre un moment pour moi, puis aller. J'avais demandé des signes. J'avais demandé des signes à l'univers. J'ai perdu mon père dans un gros accident d'auto à l'âge de 19 ans. Il est décédé d'un accident de voiture. Ma mère était accidentée aussi. Fait que ça n'a pas été facile pour moi. J'ai enterré mon père tout seul. Fait que, tu sais, j'ai comme mis ça en veilleuse. J'ai fait ma vie. Puis à mes 30 ans, moi, je n'ai pas fait de crise de la quarantaine. J'ai fait une crise de la trentaine. Ça m'a tout pété au visage. Puis j'ai dit, bon, OK, Compostelle. Et mon Dieu, je n'étais pas prête. Je m'étais préparé physiquement, mais mentalement, entre mes deux oreilles, j'étais pas prête pour l'expérience du tout. Puis moi, ma révélation, ça a vraiment été l'étape où j'ai franchi la partie française et espagnole, qui est la traversée des Pyrénées. Je me rappellerai tout le temps de Jean-Hit. Je m'étais connecté par Internet avec un Français qui tenait un petit gîte du Pèlerin. Puis là, j'avais développé une amitié avec lui. Puis là, il avait dit, ben, quand tu vas venir, tu vas coucher chez nous, puis je vais te faire découvrir ma région. Puis après ça, tu partiras en Espagne, tout ça. Puis Jean, il m'avait dit, tu vas voir dans les Pyrénées, tu vas mourir. Pas physiquement, tu vas mourir entre tes deux oreilles. 30 ans, ben, moi, j'en ai vu d'autres, puis tout ça. Puis effectivement, quand j'ai commencé les Pyrénées, je voulais mourir. J'étais vraiment découragé. J'étais en surpoids, là. Je pesais 350 livres, là. Fait que c'était un défi en soi de traverser une montagne. Puis, au fur et à mesure que j'ai fait l'ascension des Pyrénées, tout a remonté, toutes les épreuves que j'ai vécues. Puis, j'ai eu un gros down dans le milieu du chemin, là. Ça faisait 5 heures que j'étais dans la montagne. Puis, il me restait encore au moins 5, 6 heures pour me rendre à Roncesvalles, qui est la première étape espagnole. Puis là, je me suis vraiment écrasé à terre, là, avec c'est des zones pastorales qu'on appelle les Pyrénées, les cultivateurs. Au Québec, on est habitué d'avoir des champs avec des pacages, là, mais en France, il y a des grandes zones pastorales où ce qu'ils envoient justement les animaux paître toute la journée, puis le soir, ils reviennent à l'enclos. Là, je suis dans un champ de vaches, puis avec la bouse de vache qui est à grandeur partout. Puis là, je suis couché, puis je broye ma vie, puis je dis, oh, moi, j'avance plus. Fini, là. Avance plus, je recule plus, je reste ici. Venez me manger, vautours, les vaches, faites ce que vous voulez. Puis je rencontre un vieil Italien qui baragouine l'anglais. Moi, je baragouine l'anglais, fait qu'on se comprend, puis tout. Puis là, il me dit, Yannick, il dit, remets ton pack-sac, là, puis là, tu vas marcher pour quelqu'un qui a changé le cours de ta vie quand tu étais plus jeune. Il dit, donne-moi son nom. OK, ça va être Jean-Paul. Je pars, je marche pour Jean-Paul. 15 minutes, je retombe à terre, plus capable, broye ma vie. Il dit, OK, t'as assez marché pour Jean-Paul. Donne-moi un autre nom. J'ai eu tout le long de mon chemin, ben, mon chemin, l'étape des Pyrénées, c'était la révélation. Gianni, qui s'appelait, il m'a. Puis là, moi, j'ai, tu sais, 350 livres, je suis pas petit, je suis magané, je t'entasse tout le monde. Là, je me dis, moi, je vais arriver à Roncesvalles. La première étape après les Pyrénées, je vais arriver à Roncesvalles, puis toutes les gens avec qui je suis parti le matin à 4 heures du matin, qui étaient tous en top shape, puis qui étaient tous en forme, je dis, moi, ils vont arriver là, ils vont m'attendre, ils vont dire, hey, gars, le gros jambon qui a pris 12 heures traverser les Pyrénées, je suis arrivé en bas, pantoute, toutes les gens, les marcheurs avec qui j'étais parti le matin, avaient fait une haie d'honneur avec leur bâton de marche. Je suis passé avec Gianni, puis tout, les gens m'avaient gardé un morceau de poisson. J'ai eu de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour.
Wow.
Puis cette étape-là, ça a été une succession d'étapes comme ça. Révélation par-dessus révélation, message par-dessus message, puis ça me rentrait dedans, ça me rentrait dedans. Puis tu sais, ta tête, ton cœur, physiquement, il y a un pied. 12 pouces, là, je sais pas combien ça fait en centimètres, mais il y a un pied. Ça peut prendre une vie faire descendre ta tête dans ton cœur. Compostelle, ça a été 100 puissance accélérée, 30 jours. Boum, 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 boum. Fait que si les gens qui, je vous dis, on pense qu'on va faire le chemin de Compostelle, c'est de la bouillie pour les chats, c'est de la bullshit. On ne fait pas le chemin, c'est le chemin qui nous fait. Puis ça a été l'élément catalyseur qui m'a fait prendre pleinement conscience que j'étais un gars plein de ressources, que j'étais un gars qui était hyper résilient, puis qu'il n'y avait rien qui pouvait me casser parce que j'avais eu plein d'épreuves auparavant, puis j'ai comme réalisé mon plein potentiel en faisant Compostelle. J'ai dit, ça n'a pas de sens, là. C'est juste entre les deux oreilles que ça se passe. Peu importe l'expérience de vie que tu as, peu importe les parents que tu as, peu importe le bagage que tu as, peu importe les finances que tu as, l'éducation que tu as, ça se passe tout ici entre les deux oreilles. Compostelle, c'est mystique. Moi, je suis un maniaque d'histoire. J'adore l'histoire. On sent une présence sur ce chemin-là. C'est mystique. Ma mère, elle, c'était plus l'aspect religieux. C'est définitivement quelque chose de mystique. C'est vraiment une expérience initiatique. Je pourrais en parler des heures, mais.
Il y a Lolita à dire quel beau moment de connaissance de soi, chapeau.
Oui, mais connaissance de soi, mais à la dure. C'était un bain de l'humilité, un grand moment d'humilité. Puis ça m'a fait prendre. Moi, je vois ça un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. J'étais vraiment dans une passe où ce que toutes les épreuves que j'avais eues plus jeune enfant, jeune adulte, étaient remontées. Puis j'avais demandé des réponses. Puis les réponses, ils m'ont été apportées par des humains. Mais c'était une belle expérience enrichissante. Puis d'ailleurs, c'est mon rêve de retourner un jour sur le chemin. Puis quand on a fait Compostelle, on parle avec d'autres gens qui ont fait Compostelle. Là, tu sais, au Québec, Marcel Leboeuf en a parlé beaucoup, là. Il y a une partie de nous qui reste là-bas. Il y a une transformation qui se fait réellement, puis on a besoin de retourner se connecter à cet endroit-là. Si c'est dans vos projets que les gens, là, c'est une belle activité à faire, c'est un beau défi à faire, puis que vous fassiez le chemin en partie, en entier, au complet, pas au complet, en 5 ans, 6 ans, peu importe, vous allez définitivement faire un chemin intérieur. Là. Définitivement.
Puis peut-être après vendre des colliers de bambou comme Marcel Leboeuf.
Oui, peut-être.
Il y a Lolita qui est en forme ce soir, qui demande
Oui.
quand on vous bouscule dans votre façon de voir la vie avec des commentaires blessants, comment les recevez-vous?
Une autre bonne question, Lolita, merci.
C'est la championne des questions.
J'aime beaucoup. Curieusement, je fais beaucoup de services à la clientèle aussi. Je donnais beaucoup de formations là-dessus. J'ai fait beaucoup de services à la clientèle dans ma vie. Puis, je dis souvent aux gens en bon québécois, je dis ça, me faire varloper, là, quand je me fais chicaner, des commentaires blessants pour reprendre les propos de Lolita. Je dis aux gens que j'accueille ce qu'ils me disent. Parce que ce que j'ai appris aussi avec les années, c'est que derrière des paroles blessantes, il y a une personne qui a un vécu. Est-ce que cette personne-là, c'est ses propres insécurités qui l'amènent à me dire des commentaires blessants, à des commentaires qui sont pas bienveillants? Fait que je suis un être humain, là, je suis pas parfait. Je ferme mes yeux quand je vous dis ça parce que souvent je me le dis, je me parle souvent dans une journée. Quand je me fais ramasser par quelqu'un, quand quelqu'un a des commentaires négatif, quand quelqu'un a des commentaires blessants sur ma personne, tu sais, je suis pas un garçon qui est petit, là, j'ai des rondeurs, j'en ai des commentaires, je me dis, OK, ces gens-là, ils traînent leur vécu comme moi, je traîne mon vécu. Fait que je me dis, c'est un peu comme quelqu'un qui appelle au service à la clientèle, tu sais, qui attend 1 heure et demie en attente, puis là, la madame a répondu, elle dit, bonjour, comment je peux vous aider? Puis là, l'autre, bang, il tombe dessus. Là, à la fin, la personne dit toujours, ben, vous savez, je suis pas fâché après vous, c'est pas de votre faute à vous. Ben, c'est ça. Au moins, je dis. Puis souvent, je dis en farce, tu sais, je dis, j'accueille ce que tu me dis. Puis là, je laisse la personne se défouler. Puis là, souvent, en restant placide comme je suis, là, les gens, ils se dépompent, puis ils se déchoquent. Puis là, ben, je m'excuse. Puis là, ça permet justement cette période-là où ce que.
D'ouvrir un dialogue.
Oui, il y a un apaisement qui s'installe. Puis là, dire, ben, regarde, OK, tu as été carré un peu, tu as été direct, tu n'as pas été gentil. Mais regarde, là, je suis un être humain, tu es un être humain, on peut se parler, tu sais. Fait que ça donne la plus belle des portes d'ouvertes qu'on peut ouvrir pour justement établir un dialogue, puis un bel échange dans le respect. Mais si quelqu'un reste dans ses tranchées ou ce qui va rester blessant, puis tout ça, je suis capable de dire aux gens, mais regarde, on n'ira pas plus loin, ça t'appartient, tu as le droit d'être comme ça. Moi, en partie, je suis pas obligé d'endurer ça. Je suis pas obligé d'accueillir ça.
Puis dans ton livre, il y a aussi un chapitre qui est Être heureux, motivé, c'est un choix, avec une pyramide. C'est la fameuse pyramide de Maslow
Oui.
qui porte son nom. D'ailleurs, je vais la montrer. Elle est longue.
La pyramide de Maslow.
Ouais, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qui est, ça fonctionne selon les différents besoins. À la base, c'est les besoins psychologiques. Après, tu as les besoins de sécurité, l'autre d'appartenance et
Oui,
d'amour,
c'est ça.
l'estime, et après d'accomplissement, le haut vraiment, la pointe de la pyramide,
Oui, c'est
c'est
ça,
l'accomplissement.
la pyramide de Maslow. La pointe de la pyramide, c'est l'accomplissement personnel. Donc, à la base, si un individu veut s'épanouir, veut changer, veut cheminer sur un plan personnel puis s'épanouir, il faut qu'il y ait certains critères de base qui soient rencontrés pour qu'il puisse monter un étage supérieur dans la pyramide de Maslow. Donc, c'est normal qu'une personne qui vit dans un milieu défavorisé, qui n'est pas capable de se vêtir, de se nourrir, puis d'avoir un toit, puis une sécurité, il ne pourra pas penser à devenir une meilleure personne, il ne pourra pas avoir envie de s'émanciper, envie de s'épanouir, envie d'entrer en relation avec d'autres. Il faut que ses besoins primaires de base soient sécurisés. Une fois qu'on a sécurisé ces besoins primaires de base-là, là, on va aller développer, bien, des relations qui sont humaines, des besoins qui sont psychologiques. Je vais avoir besoin d'avoir de la reconnaissance, je vais avoir besoin d'avoir de l'attachement, d'avoir de l'affection. À chaque fois qu'on comble un besoin de base dans la pyramide de Maslow, ça fait qu'on s'élève vers ultimement la pointe de la pyramide où on peut aller s'épanouir. Du moment qu'on comble tous nos besoins primaires qui sont de base, qui sont se nourrir, se loger, se vêtir, sécurité financière, une sécurité émotive, avoir des liens familiaux signifiants, avoir des liens amicaux, on monte dans la pyramide de Maslow. Ben, quand les besoins essentiels de base sont comblés, c'est bien plus facile d'aller travailler sur soi, de vouloir s'épanouir puis de vouloir améliorer sa situation. Si on est stressé par l'argent, si on est stressé par un emploi qui est précaire, si on est dans un milieu où on n'a pas de ressources, tu sais, une personne qui est toute seule, qui n'a pas d'amis, que c'est difficile d'essayer de voir du positif quand on est pris tout seul dans un petit logement puis on parle à personne. Donc, si on comble ces besoins-là de base, c'est clair qu'on peut ultimement aspirer à se donner des meilleures conditions, à cheminer soi-même en tant que personne, à développer des relations qui vont être signifiantes, à se développer professionnellement. Donc, c'est la base. C'est des besoins basiques. Bien, plus on comble ces besoins-là, plus on gagne une liberté financière, émotive, relationnelle, qui va nous permettre justement d'aller se développer sur le plan personnel, sur le plan individuel.
Mais ce que tu ajoutes dans cet excellent livre, que je remonte, c'est qu'il faut accepter notre côté obscur. Et
Oui.
ça m'a interpellé.
Là, on n'est
Parce
pas
que...
dans Star Wars.
Non, 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 c'est pas je suis ton père. Non, non, c'est pas ça. Non. Parce que là, tu dis accepter le fait que nous ayons un côté obscur et que cela fait partie de nous, nous donne la chance de rediriger l'énergie que nous prenions à les combattre vers d'autres objectifs plus positifs.
Oui. On a tous en nous une part d'ombre et de lumière. Trop souvent, on connaît beaucoup notre zone de lumière. On connaît notre côté positif, on connaît nos forces, on connaît nos aptitudes. On connaît le côté qui est le plus beau de soi-même, de nous-mêmes. Puis c'est souvent ce côté-là qu'on va mettre en valeur dans nos relations avec les autres, dans nos relations professionnelles, dans nos relations personnelles. Par contre, on a tous et toutes une zone d'ombre. Il y a un côté de nous qui est moins beau, qui est moins reluisant, qui est plus dark, qui est plus ténébreux. Moi, je vous ai dit, je suis un grand procrastinateur. C'est pas une zone de lumière être un procrastinateur professionnel comme je suis. Je suis quelqu'un, je suis émotif, j'ai un tempérament bouillant. J'ai une grande impulsivité. Donc, ça, je sais que c'est des zones d'ombre que j'ai en moi. J'ai des zones d'ombre qui viennent de ma petite enfance aussi. Tu sais, je viens d'un milieu défavorisé. J'ai vu la violence. Je suis pas violent, mais je sais que l'impact que la violence peut avoir, la violence physique, la violence mentale, la violence des mots. Cette souffrance-là, je l'ai avec moi depuis longtemps. Mais si on ne l'accepte pas comme étant notre zone d'ombre, cette partie-là qui est peut-être moins forte de ma personnalité, cette partie-là qui est plus blessante, qui me ramène des fois vers le bas, vers ma peur, vers ma petitesse, vers mon faible potentiel, ben le jour où on accepte qu'on a cette zone d'ombre-là en nous, peu importe le type de côté sombre qu'on entre dans soi, ben ça fait qu'on accepte la complexité puis l'unicité qu'on est, hein. C'est ça, c'est mon âme, c'est mon essence. Ben quand j'accepte d'arrêter de me battre contre tu sais, on a toute la petite voix, le petit démon là, la petite voix négative qui te fait douter là, tu sais, Yannick, tu peux pas faire ça, Yannick, t'es gros, Yannick, tu sais, on l'a toute cette petite discussion là. Mais le jour où on prend conscience qu'elle est là, mais qu'on peut la mettre un petit peu de côté puis pas y donner trop d'attention, je peux mettre cette énergie-là que je mettais de côté pour la calmer, pour la gérer, ben me dire, OK, je vais servir de ce jus-là pour me catapulter en avant puis aller justement travailler mes forces. Je ne changerai pas mes travers, là. Je suis ce que je suis à 48 ans, là. Je ne commencerai pas à détricoter le chandail de ma vie à soir, là. Ben OK, je l'accepte. Ben, ça va me... L'énergie que je mets pas à regarder ce côté-là de travers qui me fatigue depuis 48 ans, parce que je me connais, si j'ai une prétention, c'est que je me connais. Ben, OK, j'avance. Je peux mettre mon focus sur d'autres choses, sur ce qui marche. C'est aussi simple que ça.
Et je viens de découvrir que tu es plus jeune que moi.
Bon?
D'un an.
Bon. Bon.
Tu dis qu'il faut bannir les paroles et les croyances limitantes. Et tu as
Oui.
fait un très beau tableau
Oui.
qui est là.
Oui. Ça, c'est un de mes dadas. Hein. J'adore.
Tu dis justement le « je dois » doit devenir « j'ai envie de ». Il faut que va devenir « je choisis de ». C'est difficile, non, ce n'est pas facile, mais c'est compliqué, ça devient « c'est possible ». Tout est noir, ça devient « ce n'est que passager ».
Oui.
Je subis ma vie, non, c'est « je gère ma vie ».
Oui.
Tout est là, si jamais, j'espère qu'on le voit bien, voilà.
Oui, on voit. Oui, exact. C'est ça, c'est vraiment les paroles limitantes. J'adore parler de ça dans des conférences. J'appelle ça le culte de la petitesse. Au Québec, là, on est vachement bon pour se descendre soi-même. Ça vient de notre... Je suis un maniaque d'histoire, ça vient de notre éducation, la religion catholique, c'est eux qui ont... je ne commençais pas à faire l'histoire de la Nouvelle-France ce soir, là, mais historiquement, il y a une genèse que la culture religieuse était clergé qui avait le pouvoir, puis plus qu'on était petit, plus qu'on savait rien, plus qu'on était niaiseux, plus c'était facile de nous gérer, puis de nous manipuler, puis de nous contrôler.
On est né pour un petit pain.
Oui, oui. Les béatitudes dans l'Évangile, puis je parle souvent je parle de la religion, parce que ça c'est mon éducation, ma mère, mais la petitesse. Sois petit, dans l'au-delà tu seras grand. Souffre là, un jour tu souffriras plus. Pleure là, un jour tu pleureras plus. Tu te fais frapper sa joue là, tant l'autre joue. Au Québec, là, on est tellement bon pour être négatif. Tu vas au restaurant, tu vas n'importe où, tu vas, voulez-vous un petit café? Puis des fois, on est encore mieux que ça. On rentre le négatif dans la formulaison. Hey, Jean-Luc, tu prendrais pas un café? Il y a plein de gens qui parlent comme ça. Mais les mots qu'on utilise, à force de les répéter, inconsciemment, ça nous lobotomise. Vraiment, ça mélange tout notre schéma de pensée, notre façon de nous exprimer. En consultation, là, j'ai plein de gens qui me disent « Ah, Yannick, ce que je vais te dire, c'est niaiseux. Tu vas peut-être me trouver niaiseuse. Tu vas peut-être me trouver nono. » Si déjà, les premières paroles que tu as, tu penses toi-même que ce que tu vas me dire est imbécile, que ce que tu vas me dire est négatif, surprends-toi pas, là. Ça va être négatif, ça va être de la boîte ce que tu vas me donner. Fait qu'il faut être conscient du pouvoir des mots. On dit pas justement, tu sais, je suis en train de subir ma vie. Non, je suis dans une situation X qui est passagère. pas je voudrais, je veux, je vais avoir. Le pouvoir des mots est super important dans la façon qu'on a de s'exprimer, puis dans la façon aussi qu'on a d'encourager les autres. Tu sais, nos enfants, là, on les élève d'une façon, il faut être conscient des mots qu'on utilise. Le pouvoir des mots est super puissant, surtout quand c'est répété à répétition, 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 répétition. Fait que ça prend juste des petits déclics. Tu prends deux, trois mots, tu prends la grille que j'ai mis, là, puis là, tu t'amuses. Tu dis, OK, cette semaine, j'ai plus le droit de dire, je suis pas capable. J'ai la possibilité de. J'ai l'aptitude de. Tu sais, c'est juste des petits. Puis, tu prends ce jeu-là. Il faut que tu embarques là-dedans dans un jeu. Tu sais, l'apprentissage, là, dans la petite enfance, c'est pas différent dans l'âge adulte. Quand c'est ludique, là, c'est plaisant. Quand c'est plaisant, c'est fluide. Ça rentre tout seul.
Il y a Lolita qui dit se mettre de l'avant fait prétentieux au regard des autres. C'est pourquoi on a l'habitude de se rabaisser et de s'empêcher de se freiner.
Tout à fait. Tout à fait. Puis, encore là, au Québec, on est bon pour ça. Les gens qui réussissent, on a plein, plein, plein de sujets tabous, hein, au Québec. La réussite, l'argent, la façon qu'on a d'être, de rayonner. C'est comme, ah, lui, c'est un show-off. Elle, c'est une show-off. Elle, c'est une péteuse. Ah, elle est en affaires. Ben, oui, on sait bien. Non, non, non. Il faut vraiment arrêter de, un, se rabaisser, mais deux, aussi de rabaisser les autres, là. Moi, je les appelle les éteigneurs de lumière. Tu sais, les gens qui aiment ça éteindre les autres, là. Fais du ménage. Dans mon livre, je dis traîner du bois mort, c'est long, là. Ben, élague dans
C'est
ta
ça.
vie. Élague. Fais du ménage. Les siphonneux, là, que j'appelle, là, flush ça. Fait que, puis les gens qui vont justement, tu sais, te rabaisser ou les gens qui vont te reprocher, tu sais, ta réussite ou ton cheminement personnel, j'en parle dans mon livre. Quand on amorce des changements, là, faut pas se surprendre. Les gens dans notre entourage, c'est là qu'on va voir tout de suite les gens qui sont récalcitrants, puis ceux qui vont dire, ben voyons, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es de même? Ben voyons donc, t'aurais dû rester. Ben non, t'es pas si pire que ça. Ça, c'est leur peur, c'est leurs échecs, c'est leur histoire qui est fait parler, qui est fait douter. Fait que ça leur appartient. Toi, fais tes choses, puis avance.
Pour les personnes qui veulent aller plus loin, je vous conseille ce livre, Cessez de subir votre vie et apprenez à la gérer. Et c'est disponible, bien sûr, sur le site de béliveauxéditeur.com. Donc, vous avez juste à aller sur le site Internet, de passer la commande, puis vous le recevez chez vous. Puis quand vous croisez Yannick quelque part, vous pouvez même vous le faire dédicacer.
Ben oui, certain.
Puis, parlons de ton site Internet.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement sur ton site Internet? Est-ce que c'est tes dates de conférence? C'est tes ateliers?
Oui,
Explique-moi un peu.
sur mon site Internet, il y a différentes sections. Donc, on peut prendre des rendez-vous pour faire du coaching individuel. Il y a aussi les différentes conférences et ateliers que je donne. Il y a également le coaching littéraire. Donc, je présente dessus mes différents services. Et il y a aussi une passerelle avec mon site là, qui est Coaching Multisolutions, où justement, là, je développe des solutions sur mesure pour de l'accompagnement au niveau des entreprises. Mais toutes les gens qui veulent avoir un accompagnement sur le plan individuel, sur mon site yannick.ca, vont trouver l'information sur comment on travaille ensemble, parce que moi, je vais avoir un fit avec les gens. Mais surtout aussi, je dis aux gens, il y a un petit peu la marche à suivre avec l'expérience, avec l'accompagnement, tout ça. Il y a beaucoup de questions qui reviennent. Mais à la base, j'ai beau accompagner quelqu'un, si la personne ne veut pas elle-même changer, puis initier, puis être porteur de son propre changement, j'aurais beau m'asseoir avec, je vais parler avec une roche si elle ne veut pas changer. Donc, moi, je suis là pour mettre en place des stratégies, des outils, des réflexions. Puis dans le coaching qu'on fait, c'est justement, ben, on fait un Polaroid au début de ta situation, tes envies, où si tu veux te rendre. Puis là, on fait une progression. Puis sur mon site, les gens ont accès à toute cette information-là. C'est bien détaillé. Il y a aussi les différentes conférences que j'ai déjà faites. Il y a les commentaires des gens aussi. Donc, ils peuvent voir comment les gens ont apprécié ce que j'ai fait, puis ce que je suis capable d'apporter sur le plan individuel.
Est-ce que tu vas être au Salon du livre de Québec? Est-ce que tu le sais? Est-ce que...
Je crois pas. J'ai eu la chance d'être au Salon du livre de Montréal en novembre.
Oui.
Parce qu'il y a un certain temps où le livre est publié, où on peut être présent dans les salons. Mais je suis toujours bien actif chez Béliveau, là. Je suis souvent dans les salons du livre quand même. Je vais toujours me promener. Je suis jamais loin du kiosque de Béliveau. Donc, puis je fais souvent des publications sur mes réseaux sociaux. Je l'ai dit aux gens que je vais être au Salon du livre à tel jour, telle heure. Fait que je veux pas enlever le spot, la présence qui est importante pour les auteurs qui sont en dédicace. Mais je suis souvent pas loin du kiosque de Béliveau.
Oui, puis dans tes projets, il y a deux projets qu'on peut en parler. C'est un livre de développement personnel, mais cette fois-ci pour les hommes.
Oui, exact. Je veux vraiment aller toucher le lectorat qui est masculin. Par expérience, c'est un lectorat qui n'est pas beaucoup développé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'identifient pour cette clientèle-là. Je dis toujours, dans les livres de croissance personnelle, on voit beaucoup de livres qui sont attribués puis adressés spécifiquement aux femmes. Des trucs genre « Journal d'une divorcée ». C'est souvent des titres au féminin. Et moi, par expérience, dans les conférences que j'ai faites, les ateliers, dans les salons du livre aussi, il y a beaucoup d'hommes qui viennent me parler. Puis là, je dis « Ah, il y a un besoin ». Donc, je travaille actuellement là-dessus sur un livre qui va justement s'adresser justement aux hommes, la façon qu'on a d'être en relation, la façon qu'on a d'exprimer nos sentiments, la façon qu'on a d'être. Les hommes, on est souvent malmenés là, socialement. Là. Comment qu'on fait pour se retrouver quand on est un homme rose, des choses comme ça. Je vais amener vraiment une twist humoristique puis vraiment parler au lecteur, donc à l'homme. Puis le deuxième projet, c'est mon roman historique sur la Seconde Guerre mondiale. C'est une uchronie. Une uchronie, c'est une version alternative de l'histoire. Donc, ça porte principalement sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est sur ce quoi je travaille en ce moment.
Ah oui, tu es en train d'écrire?
Oui, mon roman historique est un peu plus que la moitié de fait. C'est vraiment une uchronie. Là. C'est une version alternative de l'histoire qu'on connaît sur la Seconde Guerre mondiale dans le régime du Troisième Reich, là, dans l'armée allemande. Donc, j'ai développé un personnage principal qui est totalement fictif, mais l'ensemble des autres données, des lieux, des rencontres avec, c'est vraiment le cercle rapproché là, du gouvernement nazi. Je veux pas trop en dire, mais il y a une twist à la fin qui met la table pour une suite. Là. J'espère que ça va avoir une portée. Là.
Mais merci beaucoup, Yannick, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, puis à mes questions aussi. Les personnes qui nous ont écoutés ont posé beaucoup de questions.
Oui.
Ça a été vraiment un plaisir. Je te laisse le mot de la fin, puis moi, je vais revenir après avec le prochain invité dans 15 jours.
Oui.
Donc, je te laisse le mot de la fin, mon ami.
Oui, ben un grand merci pour cette belle rencontre-là. J'espère que les gens vont avoir eu un petit déclic qui va leur donner l'envie d'en apprendre un petit peu plus sur eux-mêmes. Sur mon livre aussi. Puis ce que je voudrais tout simplement dire en terminant, c'est que tout le monde a le pouvoir de reprendre en vie, de reprendre en main sa propre vie puis de faire les choix qu'il veut. Quand on prend cette prise de conscience-là, on se donne un pouvoir qui est pratiquement illimité. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de réaliser votre plein potentiel puis justement de voir d'une façon différente le vécu que vous avez eu. Puis justement, aller tirer profit de ce vécu-là pour pleinement vous réaliser selon ce que vous voulez faire, selon vos attentes puis vos désirs à vous.
Puis le prochain invité, merci beaucoup Yannick. Prochain invité, c'est le 15 mars à 20h avec Maryse Audet. On va avoir beaucoup de plaisir aussi à rencontrer. Moi, avant de terminer, j'ai un petit message personnel. La semaine passée, j'ai perdu un ami. Je sais qu'il écoutait les Béliveau Rencontres. Donc, ce soir, je lui dédie ce Béliveau Rencontre de là-haut, ce qui nous écoute. Je veux dire de là-haut. Puis, David, je pense très fort à toi et tu me manques. Donc, voilà. Je voulais lui faire ce petit clin d'œil-là ce soir. Mon petit message personnel, Merci beaucoup, Yannick.
Merci à
Puis,
toi.
ça a été un grand plaisir. Puis nous, on se retrouve dans 15 jours avec Marie Saudet le 15 mars dès 20h. Merci tout le monde. Merci. À la prochaine. Salut.
Salut.